Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Get it easy.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Ma non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles et musiciens, musicophiles et cinéciens, tiens. Bonjour et bienvenue dans le monde en audiovision onirique de 24 images secondes. Vous êtes dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, et c'est une très bonne idée, et peut-être une très bonne idée. Je suis fiévreuse, attention, ça va être compliqué. Bonjour à toutes et à tous donc, et on est en très bonne compagnie aujourd'hui, comme toujours, avec René. Salut René.
Bonjour.
Et Alexis, bonjour Alexis.
Hello.
Et toujours le seul, l'unique Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Tu n'as pas changé depuis l'année dernière.
Non, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Peut-être un petit peu de poids, non? Non, je ne sais pas. Non. Alors, on est là pour discuter de un parfait inconnu à l'occasion d'un événement spécial et de l'avant-première du film qui sera ce dimanche au Vence. On parlera aussi de La Chambre d'à côté. On redira un mot. René redira un mot. Everybody Loves Tuda, Conclave et Nosferatu. Mais d'abord, on commence par un peu de musique hybride. Du paradis, David Lynch. Merci Sylvain pour ce petit mix. Vous aurez peut-être reconnu à la fois le thème principal de Twin Peaks, la série de 1991. Ah, mais tu ne l'avais pas.
Je me disais, j'ai jamais entendu cette version de Knocking on Heaven's Door.
Ah, formidable, n'est-ce pas? Donc, un mix, voilà, entre cette œuvre composée par Angelo Badalamenti, le fidèle musicien, réalisateur des bandes annonces de David Lynch, et puis mixé évidemment avec Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, qui était d'ailleurs composé pour le cinéma en 1973, puisque c'était pour Pat Garrett et Billy the Kid. Mm-hmm. Voilà, donc avec audace, Sylvain a fait cette hybride.
Sur ta demande.
Oui, mais quand même, c'est... Un beau mélange. Merci Sylvain. Donc pour rendre un petit hommage à David Lynch qui vient de mourir, qui a pris la Lost Highway et qui s'est perdu définitivement dans son Inland Empire peut-être. Messieurs, un mot sur...
Moi, ce que je retiendrai de lui, c'est surtout son originalité formelle. Finalement, on s'aperçoit que 90% des films qu'on voit sont d'un point de vue formel, très classique, très réaliste, un début, un milieu, une fin. Or, c'est quelqu'un qui a un peu bousculé les codes dans ce domaine. Je pense par particulier à Mulholland Drive, mais à tous ces autres films, à l'exception de celui dont le titre m'échappe.
Une histoire vraie.
Oui, qui est beau d'ailleurs, mais qui est plus conventionnel. Mm. Je retiens ça surtout, moi. Mm.
Je dirais que je retiens surtout pour avoir fait des études de ciné, c'est un des premiers films qu'on voit, c'est Elephant Man. Et moi, j'ai été marqué, ça a fait mon début, mon début de cinéphilie, hein, et ça m'a permis d'aimer le cinéma et d'analyser aussi ce qu'a pu se faire. Et grand chapeau à ce monsieur qui, comme a très bien dit René, a poussé les codes et nous a permis de voir un cinéma différent, mais je pense à d'autres réalisateurs aussi, mais ça fait partie d'un des grands qui restera dans le cinéma. Ouais.
Et qui déborde, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment, il est polymorphe.
C'est ça.
La musique est très très présente dans ses films, mais la musique est vraiment scénaristiquement est une intégrée, composante, en fait. C'est vraiment une composante. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un artiste, pour moi aussi, en trois dimensions, David Lynch. Ces films, c'est des objets d'art où qui laissent une vraie place au spectateur. Et ça, c'est finalement assez rare, je trouve, que des réalisateurs fassent autant confiance au spectateur.
Et à son imagination.
Ouais, où tout n'est pas surligné 20 000 fois au stabilo et commenté, illustré. Et ça laisse une grande liberté. Enfin, pour moi, c'est vraiment des films qui laissent une très très grande liberté au spectateur.
La question que moi je me pose par rapport à sa filmographie, que je ne connais pas dans l'intégralité, c'est s'il a toujours pu faire les films qu'il voulait. Je ne sais pas s'il en a fait tant que ça finalement.
Non, j'ai regardé sa filmo, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est difficile, et je voulais rebondir là-dessus justement, c'est que j'ai regardé une interview hier de le réalisateur John McTiernan qui avait fait Last Action, Piège de cristal, etc., qui disait que maintenant être réalisateur à Hollywood c'est très compliqué parce que ils sont tous conventionnés maintenant. Il y a très peu de réalisateurs qui sortent du lot et il en reste très peu. Martin Scorsese, Spielberg, David Lynch, etc., qui peuvent encore mettre leurs pattes. Je pense à Wes Anderson également et qui rentrent pas dans les codes. Mais c'est très difficile maintenant de se faire financer par ces producteurs hollywoodiens. Et c'est pour ça que généralement ils ont leur propre boîte de production. Et je tire encore un coup de chapeau dans un cinéma hollywoodien maintenant. Très compliqué, ouais.
Après, son dernier film, c'était 2006 avec Inland Empire.
Non, il y avait Twin Peaks.
Après, il a refait Twin Peaks en 2017, en série. Alors, c'est vrai, mais série pas pour le cinéma. D'ailleurs, il avait un rapport assez particulier au cinéma. Hein. Lui, il disait qu'il aimait... En fait, il allait jamais au cinéma, David Lynch. Et il regardait parce que, en fait, ce qu'il aimait, c'était des narrations... des types de narration où il passait du temps. Et donc la série pour lui était vraiment l'objet sériel en lui-même était vraiment quelque chose de, d'important sur la narration, peut-être plus que d'aller spécifiquement dans une salle de cinéma, alors que voir Mulholland Drive ou même Blue Velvet au cinéma, c'est des expériences
inoubliables.
Vraiment, allez voir. J'imagine qu'à la médiathèque d'Aubenas, il y a pas mal des films de David Lynch. Peut-être que l'un des cinémas repassera, je ne sais pas, quelques films.
Sûrement en rétrospective, oui.
La télé, peut-être. Ce n'est pas l'idéal.
Oui. Et puis, je me demande alors peut-être Elephant Man ou Une histoire vraie. Peut-être que c'est des films qui passeraient plus à la télé. Mais je vois mal...
Eraserhead.
Eraserhead, le premier film, à mon sens, 1977 de David Lynch, passé sur TF1.
C'est peu probable.
C'est peut-être, en même temps, c'est peut-être un bon signe. Que ce ne soit pas faisable, je ne sais pas. Bref. Donc David Lynch, eh bien on passe à un musicien qui est au cinéma et pas à l'inverse, bien que David Lynch était musicien aussi.
You tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark.
If you're traveling in the North Country Fair,
I say no one wants to hear what a kid wrote last month.
Well, I like your songs.
Where the winds hit heavy on the borderline.
Who wrote this?
He did.
Remember me.
How about that Joan Baez, folks?
Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty.
love mine.
Your songs are like an oil painting at the dentist's office.
You're kind of an asshole, Bob.
If you go with snowflake storm, with the rivers freezing, summer ends.
Ça nous donne l'occasion d'entendre sa musique à Bob Dylan avec Un parfait inconnu, un film qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 29 janvier. Il faudra attendre un peu, sauf si vous allez dimanche au Vence, où il sera proposé en avant-première. Un film de James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning, entre autres. James Mangold, qui avait déjà réalisé un film sur Johnny Cash en 2005, c'était Walk the Line, que j'ai revu hier pour l'occasion. Voilà.
Joaquin Phoenix.
Avec Joaquin Phoenix, exactement. Exactement. Alors, parle-nous un peu de cet événement, Alexis, qui va se passer au cinéma des Vences, à Vivance, dimanche.
Oui, donc en fait, ça a été très compliqué pour faire cet événement. C'est-à-dire que ça fait au moins 3-4 mois que je prépare cette séance-là. Parce que, en fait, pour avoir une avant-première, c'est très compliqué. Parce que le film, en fait, sortait aux États-Unis, il était présenté aux Golden Globes, etc. Et en fait, il fallait trouver une solution pour avoir le film. Donc, on n'avait pas de. On a eu la réponse, quoi, 2 semaines avant la publication du programme. Et donc, en fait, on s'est battu pour avoir le film. On a, parce que c'est Disney qui produit le film. Et donc, on les a embêtés maintes et maintes fois pour savoir où ça en était. Jusqu'au moment où on nous a dit oui. Donc, on a dû chercher le groupe en amont. En sachant que le groupe était pas au courant. Enfin, on savait pas forcément la disponibilité du groupe, etc. Oui.
Parce qu'on n'a pas encore dit, oui. L'événement, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est d'abord à 17h. Un concert, et c'est un concert de Caroline and the Free Folks.
C'est ça.
Et ensuite, à 18h, l'avant-première de Un parfait inconnu.
Exactement, un alliage des deux, c'est-à-dire qu'on a un concert live sur scène, sur la scène du cinéma, avec donc un concert folk, alors qu'il ne va pas reprendre des chansons de Bob Dylan, il y aura un clin d'œil d'une des chansons, on laissera la surprise, et le reste, ça va être plutôt justement dans l'univers de la folk, avec des reprises de John Baez, etc.
En anglais, donc.
En anglais. Et l'objectif, c'était d'emmener les spectateurs dans cet univers folk des années 60, 70. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment allier ces deux films, faire une belle, enfin, cette musique, enfin, ce concert et ce film pour allier les deux. Tout simplement parce que souvent, on est en plein dedans, mais la musique et le cinéma, c'est quand même deux arts qui se lient totalement. Et j'avais une envie depuis très longtemps de proposer un concert et un film. Et quand j'ai su, moi, grand fan de Bob Dylan, qu'un film biopic allait sortir et que c'était James Mangold qui allait réaliser le film, j'étais super content. Et en plus, quand on dit Timothée Chalamet qui jouait l'interprète de Bob Dylan, j'ai dit oui, il y a de beaux espoirs. Et quand je me suis renseigné un petit peu sur comment avait été le film, il faut savoir que Timothée Chalamet a refait les musiques de A à Z. C'est-à-dire, c'est lui qui chante. Donc il a interprété.
On est bien d'accord, c'est un biopic et c'est une fiction.
C'est un biopic qui retrace donc la jeunesse de Bob Dylan, l'ascension de Bob Dylan, jusqu'au moment où il passe à la guitare électrique, où ça fait très polémique. Et en fait, on voit son ascension au fur et à mesure. Et lui, Timothée Chalamet, a mis 3-4 ans à préparer le film, parce que justement, donc il a chanté, il a appris toutes les partitions, etc. Et il a repris les intonations. J'ai écouté tout l'album, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a pris les mêmes intonations, les mêmes mimiques, etc., que le personnage. Voilà, et c'est très prometteur.
D'accord. Bah, à voir. Parce que j'allais poser, quand tu dis il a repris les mimiques, etc., est-ce qu'on est dans l'incarnation ou est-ce qu'on est dans le mimétisme
On est dans.
Après, c'est très compliqué parce que tu viens de nous dire, juste avant que l'émission commence, que tu n'avais pas pu le voir. Hein, tu le verras en avant-première, comme tout le monde, le 19 au Vence, ce dimanche au Vence. Donc là, en fait, tu t'es beaucoup renseigné sur le film, mais t'as pas pu le voir.
Et il est sorti aux États-Unis, donc les retours sont unanimes par rapport au jeu de Timothée Chalamet, mais aux rôles secondaires aussi que peuvent apporter autour, parce qu'apparemment, ils ont un réel impact sur l'histoire, et c'est pas que des rôles secondaires pour pour nourrir cette histoire. Non, ils ont tous leur propre chemin. Et en fait, ils sont, ces rôles-là sont intéressants dans le sens où ils sont fouillés, ces rôles-là. Et donc, ils apportent quelque chose à Bob Dylan. Ils vont tous s'entrecroiser. Ils vont jamais, en fait, ça va permettre de nourrir l'histoire. Ils vont, et ça, apparemment, voilà, il y a que des très bons retours sur le film aux États-Unis. Et c'est un film à Oscar, complètement. Là, il est, voilà. Et au Golden Globes, il a été nommé, il a rien gagné, mais il est en passe pour aller aux Oscars.
Ça, c'est souvent une, comme disent les Anglais, une bénédiction mélangée. On voit beaucoup de films qui, sans l'avoir été fait pour avoir quelque chose aux Oscars, on l'a dit de Conclave, par exemple. C'est plein de clins d'œil. Regardez comme cette scène est réussie. Voilà, c'est un peu énervant, ça, quand même.
Ouais. C'est pas forcément bon signe. Mmh. Alors, est-ce que... Bah, après, il faudra se faire sa propre opinion.
Pièce, oui.
Alors, déjà, c'est une très chouette initiative que cette soirée spéciale, donc dimanche, à partir de 17h au cinéma d'Evance. Donc, 17h avec Caroline and the Three Forks. Puis donc le concert, puis à 18h, un parfait inconnu. Oui.
J'imagine qu'il faudra réserver plutôt.
Oui.
On peut le faire en ligne ?
On peut le faire en ligne, c'est possible. Ou par téléphone, vous nous appelez, on met les places de côté, il n'y a pas de souci.
Ouais. Okay. Voilà. Sur le site internet du cinéma d'Evance. Vivance.
Exactement. Et le groupe, du coup, vient de Lyon. Il se déplace de Lyon pour... voilà.
Super.
Parce qu'on avait déjà vu, alors là... complètement différent. On en parlait un petit peu avant. I'm Not There, c'était un film sur Bob Dylan de Todd Haynes en 2007 qui prenait le parti de ne rien saisir de Bob Dylan en le diffractant en plein de personnages, 6 personnages, il me semble. Il y avait notamment Kate Blanchett, voilà, ouais. Kate Blanchett, Richard Gere, je ne sais plus qui d'autre, avec des profils différents. Il était à la fois poète, prophète, mais comédien. Enfin, c'était... C'était une folie, justement, pour essayer de distiller, voilà, de saisir sans saisir, en fait, de distiller un petit peu ce que pourrait être, ce qu'aurait pu être, ou voilà, ce qu'on fantasmerait être.
Mais il est protéiforme. Il peint bien. Il a eu des expositions au Danemark. Il s'est essayé au cinéma, ça a été un échec. Bon, c'est un poète incontestable, il a eu le prix Nobel de littérature.
En 2007.
C'est un musicien, oui, plus tellement. 17,
2017, oui.
J'en saute, mais il y a encore d'autres domaines dans lesquels il s'est essayé. Il a écrit un livre que j'ai personnellement, qui est tout à fait remarquable, Chronicles, où il retrace son parcours, dont le film a dû l'utiliser forcément, et dans lequel on s'aperçoit que ce qui fait la différence entre lui et les autres grands auteurs-compositeurs de musique, c'est qu'il a une vraie culture littéraire, et il dit des choses dans ce livre qui sont absolument étonnantes. Par exemple, il adore Balzac, qu'il trouve hilarant. C'est la première personne que je connais qui trouve Balzac hilarant. Il a lu des trucs invraisemblables. Il a lu Rousseau. Il a lu Montesquieu, apparemment. Qui a lu Montesquieu? Alors, j'espère qu'il n'a pas lu L'Esprit des lois, parce que c'est quand même assez indigeste. Il a lu Rousseau. Et il a beaucoup lu Rimbaud. Et on comprend pourquoi. Alors, bon, il a eu le prix Nobel de littérature. Il y en a que ça défrise. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudrait juger sur la base des poèmes, des textes qu'il a écrits. Il y en a qui sont commerciaux, mais il y en a qui sont tout à fait remarquables. Le texte d'une chanson comme Mr. Tambourine Man est un vrai poème surréaliste que n'auraient pas renié les surréalistes, je pense. Non, c'est un type brillantissime. C'est la raison, sans doute, pour laquelle sa carrière a duré si longtemps. Randy Newman, qui est un grand musicien, auteur-compositeur-interprète, disait fort justement que la plupart des bons ont 10 bonnes années après, ils ont du mal. Lui, ça fait 60 ans qu'il tourne, et il continue, de temps en temps, pas toujours, de sortir des disques remarquables. Je veux dire, un disque comme Time Out of Mind, qu'il a sorti à la fin des années, à la fin du XXe siècle, est un disque remarquable. Voilà, c'est une légende, Bob Dylan.
Bob Dylan, une légende au cinéma, donc.
Et sur scène.
Et sur scène, ouais. Oui, sur scène. Mais là, tout de suite, l'actualité, en tout cas en Ardèche, c'est Evance dimanche, le 19, et sinon, il faudra attendre, mais sans cet événement avec le petit concert avant, il faudra attendre le 29 janvier. On poursuit avec un film dont on a déjà parlé, mais dont tu veux redire un petit mot.
The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living. And the dead. Ingrid, do you think I need to say goodbye to my closest friends?
I think you should do whatever you want to do.
I will not go out in mortifying anguish.
I don't know what to say.
I'm hoping you'll say yes.
Yes to what?
Mais oui, à quoi? Oui, à la chambre d'à côté de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore et John Turturro aussi. Olivier, la semaine dernière, avait dit oui au film. Et toi, René?
Moi aussi. Alors, je vais essayer de... J'imagine que vous êtes allé à l'essentiel. Je vais vous dire simplement deux ou trois choses. D'abord, une chose. Ce qui m'a beaucoup intrigué tout au long du film, ce sont ces scènes qui baignent dans un kaléidoscope de couleurs vives, avec une dominante de vert et de rouge. A priori, on peut s'étonner de ce choix pour un film qui porte sur un sujet empreint de tristesse et de gravité, puisqu'il s'agit de la mort. Alors... D'une part, je crois que ça correspond à l'univers poétique d'Almodovar, mais en plus, si on considère ce choix formel comme un contrepoint ironique au contenu du film, on pourrait dire alors qu'Almodovar semble nous dire « Ces femmes qui sont confrontées à la mort ont beau être riches, vivre dans un environnement luxueux, elles sont tout aussi impuissantes dans leur confrontation avec la mort » que si le film se déroulait dans un studio de 20 mètres carrés. D'ailleurs, le film le dit clairement à un moment, il se met à neiger, et suite à un extrait de film que vous avez reconnu, bien sûr, qui s'appelle The Dead, le dernier film de John Huston, qui est une petite merveille, d'ailleurs, et le personnage incarné par Julianne Moore dit « Il neige sur les vivants et les morts ». Et c'est ce que dit James Joyce dans la nouvelle dont a été tiré le film The Dead. La dernière phrase, c'est ça. Il neige sur les vivants et les morts. Ce qui veut dire que la mort est un grand égalisateur et que la richesse n'y change rien. Donc, ce point de vue, ça peut se justifier. La deuxième chose que j'aimerais dire à propos de ce film, c'est le grand nombre donc, de citations, et j'y reviens, ou d'allusions à d'autres œuvres cinématographiques, picturales ou littéraires. Il y a une allusion, mais Olivier ou toi, vous avez dû le dire, une allusion à la peinture de Edward Hopper. Ah
ben, oui, il en a parlé, Olivier.
Qui est évidente, évidemment. C'est même, ils le disent même dans le film. Alors, c'est dit dans le film, oui. Mais c'est plus qu'évident, cette allusion-là. Les autres le sont moins, allusion à The Dead, je viens d'en parler, ou encore à la littérature, puisque The Dead est tiré d'une nouvelle de James Joyce qui s'appelle The Dead, dans le célèbre recueil de nouvelles qu'il a écrit qui s'appelle Jean de Dublin. Voilà, donc cette idée que, métaphoriquement aussi qu'on trouve dans le film, que la pluie ou la neige sont des grands égalisateurs, il pleut, il neige sur tout et sur tous, pauvres ou riches, métaphore qu'on retrouve également chez Virginia Woolf dans son roman The Years. Voilà, toutes ces citations vont dans le même sens, à savoir le pouvoir égalisateur de la mort et notre impuissance face à la mort. Et ça éclaire avec ironie, encore une fois, le combat à la fois admirable et vain du personnage qui cherche en quelque sorte à priver la mort du dernier mot, mais on ne peut pas. Voilà, donc ce film profond, très intéressant.
À voir, donc il est encore à l'affiche au Navire et à Priva, au Vence et à Rosière. Mais il est partout. La chambre d'à côté de Pedro Almodovar. On continue avec un autre film dans une autre atmosphère.
شو تغاون وتي غير معايا قفا
انا جايه نسوي ماشي باش نبيش تغاون الجوا
انا بغى معنا الخوت يلا
تشوفوا الناس كيفاش تمسك السرابع وما رسيتي لنا ديالو
انا ماشي قحبه كنغني
Everybody Loves Touda, c'est le film, le dernier film de Nabil Ayouch, qui avait fait Whatever Lola Wants ou Much Loved en 2015, avec l'électrisante Nisrin Eradi. Et Alexis, toi tu es allé voir Everybody Loves Touda.
Oui.
As-tu aimé Touda?
J'ai aimé, je mettrai des petites réserves, mais... En tant qu'exploitant de salle, je vais dire ce que j'ai aimé, et puis un petit peu, je vais pas trop en dire de ce que j'ai pas aimé, parce que j'ai envie que les gens découvrent quand même ce film-là, parce qu'il a une importance assez quand même capitale, hein, même par rapport à ce que c'est les Sheikas, si je le dis bien. Tout ça pour dire que déjà le réalisateur, donc Tu as très bien dit qu'il avait fait Much Love en 2015 et il avait eu un, alors que j'avais beaucoup aimé et qu'il avait eu un prix au Festival francophone d'Angoulême. Et moi j'avais vu aussi Razia qui était superbe. J'avais fait un festival marocain dans un ancien cinéma et c'était, on avait programmé ces films-là aussi et c'était super. C'était magnifique. Et donc j'ai vu ce film et donc dans ce film-là, on réhabilite un peu les Tchaïkas qui sont des figures historiques du Maroc. Et juste pour expliquer, c'est un genre musical autrefois réservé aux hommes qui défilait le patriarcat et le pouvoir. Ces femmes autrefois vénérées sont tombées en disgrâce et à partir des années 60-70. Et donc le réalisateur a voulu rendre ici un hommage de ces femmes-là. Ce que je peux en dire, alors moi il y a une scène aussi fascinante qui m'a marqué dans ce film-là quand même, c'est un plan séquence de 8 minutes sur la plus grande autour de Casablanca. Cette séquence-là, en fait, alors rien que pour ce film-là, allez le voir pour cette plan séquence de fin, c'est que ça se passe dans la grande tour de la plus haute tour de Casablanca, et en fait, elle a nécessité des longs mois de préparation. Et donc, c'est un tournage nocturne et sous la pluie. Alors, je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie d'en dire plus, mais rien qu'avec ce plan séquence-là, allez voir ce film parce que c'est très rare de voir des plans séquences si magnifiques. Donc, c'est aussi un tournage qui s'est fait sur le rythme des saisons. En fait, ça a permis de capturer le paysage marocain sur toutes les saisons donc printemps, été, hiver, etc. Qui symbolise le voyage intérieur de Touda, en fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire, que la musique joue un rôle narratif dans le film, forcément, et que rien que pour la BO, allez voir le film aussi. Voilà.
Everybody Loves Touda. Mais oui, je t'ai demandé. Merci beaucoup. Everybody Loves Touda. Donc, je rappelle, avec Nisrine Eradi, cette actrice fascinante. Donc, c'est à voir encore à Rosières. Et puis aussi, si vous êtes plutôt du côté du Teil, vous pouvez aller jeter un œil au Templier à Montélimar, où il est diffusé. Tu voulais redire un mot aussi, puisque tu as vu Conclave. On a quelques... Allez.
Non, je vais être très rapide. Ouais. Parce que je suis sûr que vous avez dit l'essentiel là-dessus, les décors, tout ça. Non, je disais simplement que c'était un film qui est très divertissant. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la forme d'une enquête policière, ça marche. Ceci dit, il y a dans le scénario, dans la dernière partie du film, quelques scènes qui sont absurdes et qui, à mon avis, desservent le film. Mmh. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
Et pourtant, il a été nommé en tant que meilleur scénario Golden Globes. Hein.
Peut-être bien, mais donc, alors
c'est justement pour abonder dans le sens
c'est
de
ça. C'est ce
le
que
mauvais
je voulais
signe.
Dire. C'est racoleur comme tu.
Mais je suis d'accord.
C'est du racolage.
Je suis d'accord.
Conclave, allez vous faire votre propre idée puisqu'il est encore.
Mais on s'ennuie pas. Hein, on s'ennuie pas. Ça, c'est...
Le film Conclave d'Edouard Berger. Et puis on termine. Allez, un micro son. Pour le dernier film.
Come to me. Come to me.
Come to me. Nosferatu. Le remake de Murnau par Robert Eggers avec Lily Rose Depp notamment. Alexis.
Oui.
Ce film.
Je l'ai vu.
Était-il bien utile de faire un remake plus de 100 ans après de Nosferatu ?
Eh bien, je vais te dire oui.
D'accord.
Alors, je l'ai vu, je me suis beaucoup renseigné, j'ai écouté des interviews du réalisateur parce que justement, c'était intéressant de savoir un petit peu pourquoi il a voulu se refaire ce Nosferatu-là. Donc, il faut savoir que déjà, Nosferatu, le réalisateur, lui, il a été pratiquement baigné dedans, c'est-à-dire qu'il l'a vu un nombre de fois quand il était enfant, et il a fait une pièce de théâtre quand il avait 10 ans. Voilà. Et à 10 ans, il savait déjà qu'il voulait en faire un film. Donc, bon, est-ce que c'est prétentieux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a dit.
Tu parles du premier Nosferatu, avec Kurskinski.
Exactement, du premier Nosferatu. Et d'ailleurs, le premier, alors, de Moreno...
Murnau,
merci. Qui le dit bien, il s'est beaucoup inspiré de ce film-là, et pas du deuxième, qu'il n'a pas revu, en fait. Il a vu le premier un nombre de fois incalculable, mais pas le deuxième. Et donc, je voulais quand même préciser que donc Robert Eggers, qui est le réalisateur du film, a réalisé The Witch en 2015, The Lighthouse, qui est un très bon film également, en 2019, et The Northman, qui a été un petit peu moins vu par les spectateurs, mais qui a mérité d'exister en 2022. Voilà. Donc, ce que je peux dire du film, c'est qu'Eggers, donc... pourquoi il a fait ce film-là, c'est qu'il a voulu réinterpréter en passant par par cette figure féminine qui est Lily Rose Depp, jouée dans le film, donc Hélène, qui est l'actrice principale dans ce film-là, et qui a voulu lui donner un rôle plus important, donc le rôle principal, parce que dans le film de Murnau, justement, elle a ce rôle principal qu'à la fin du film. Et donc là, on a voulu lui laisser la place, et donc le choix s'est porté sur Lily Rose Depp, qui est un très bon choix, parce que, alors déjà, Lily Rose Depp est une actrice un peu décriée par son jeu, et elle a remis un petit peu carte sur table, et elle a dit, voilà ce que je suis capable de proposer, je suis peut-être la fille de Johnny Depp, et de Vanessa Paradis, mais je ne suis pas que ça, voilà. Et elle a donné le ton, et c'est une actrice qui, entre guillemets, reprend le flambeau, hein, sur des films un petit peu horrifiques. Et donc, moi, ce que je peux vous dire sur le film, justement...
Oui, dis-nous, allez, ça fait deux fois, dis-nous, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film?
Donc, ce qui ressort du film, le personnage de Lily Rose Depp est exceptionnel. On s'arrête plutôt sur l'amour de ce personnage-là, des complexités de ce personnage. Et Nosferatu a été traité d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on lui a mis une moustache, on l'a rendu encore plus impressionnant, et on a fait un peu comme dans Les Dents de la Mer, par exemple. On le voit pas, on le voit très peu dans le film, en fait. Il apparaît vraiment qu'à la fin.
C'est une menace.
C'est plus. Une menace, voilà. Et donc c'est plutôt quelque chose de positif. Je trouve que ça renforce justement l'intrigue, ça renforce la peur qu'on a, ne pas tout de suite montrer le personnage. Et en fait, pourquoi ils ont voulu faire Nosferatu un peu différent que de la première version, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on pensait le film, quand on pensait Nosferatu, on pensait à un vampire, mais les vampires, en fait, ils étaient à l'époque considérés comme des zombies, on les pensait comme des zombies, et pas comme un vampire avec les grandes dents, les grandes oreilles, etc. Donc l'objectif, c'était plutôt comme des zombies, et en fait, on a repris un costume du XVIIe siècle d'Hongrie, voilà, pour l'habiller. Et donc on lui a mis une petite moustache avec les longues griffes qui sont restées.
Là tu parles pour ce film
pour
aussi.
Pour ce film, d'accord, voilà. Ouais. D'accord. Et donc il a interprété, je ne sais plus le nom de l'acteur parce qu'à chaque fois je fourche sur. Il a joué dans le dernier de Clint Eastwood.
Est-ce que c'est Bill Skarsgård?
Exactement. Merci beaucoup. Tu m'évites de l'écorcher. Et qui a qui a fait le rôle de ça, justement, qui a fait le clown de ça, et qui est très bon dans ce rôle là et qui a joué dans Dune aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, rien que pour ça, c'est un très bon film. Le film a une ambiance glauque et oppressante tout le long du film, et il faut savoir que le film a été tourné dans un château en Hongrie. Mais c'est ce qui permet ce film d'être un peu plus palpable. Mais il faut savoir que le film n'a pas été tourné à l'intérieur du château, mais il a été plutôt tourné à Prague en studio, parce qu'en fait le château était en décrépitude totale, et donc il était en restauration, et donc tous les décors ont été refaits en studio à Prague. Et ça nous a fait penser aussi un petit peu à l'expressionnisme allemand. Donc Nosferatu reprend ce courant là forcément. Et pour appuyer ça, ils ont voulu reprendre des décors de l'ancienne Allemagne du XVIIIe siècle, sauf qu'ils ont très peu, ils n'ont pas trouvé en fait de ville en Allemagne qui représentait ces villes-là, parce que ça a été détruit à la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont été tournés en République tchèque. Et il y a beaucoup de choses qui ont été refaites en studio. Voilà. Et c'est hyper important. Et je dis bravo pour ce décor-là, parce que refaire tout ce décor, c'est quand même exceptionnel. Voilà.
Donc tu nous conseilles Nosferatu, qui est à voir au Navire, à Rosières et également au Teil. Merci beaucoup, et merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Juste un petit point agenda, deux secondes. Ce soir, il y a En Fanfare à la Vesprade à Tueil, si vous ne l'avez pas encore vu. Les Algues Vertes aussi à l'USAS, puisque c'est toujours le troisième festival du film paysan. Donc ça, c'est ce soir à 19h à l'USAS. Demain, toujours dans le cadre de ce festival du film paysan, Éleveur d'Horizon à la Nars. Et puis, je mentionnerai aussi Flow, dimanche à 11h à l'USAS, un très très beau film d'animation existentiel. Flow. Mais sinon, allez voir à partir de 17h la soirée spéciale autour du film sur Bob Dylan, un parfait inconnu, puisqu'à 17h, un petit concert Caroline and the Three Folks et à 18h, donc un parfait inconnu. Ça, c'est au cinéma des Vences, le Vivence. Merci beaucoup.
Le dimanche.
Le dimanche, dimanche 19. Au Vence. Merci Sylvain. Ciao.